Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Amen. Alors, vous avez par l'image ce que nous allons traiter ce matin. Ça y est, il paraît que les champignons sont sortis. Hein. Il a plu, etc. Il y en a plein qui en ont trouvé des pas mal. Alors, la caractéristique principale, on va dire, entre le champignon et le chêne, ou un arbre quelconque, c'est qu'en général, le champignon, il peut sortir en une nuit ou deux. Moi, je ne m'y connais pas trop, mais on a toujours entendu dire ça, hein, très rapidement. Tandis que le chêne, normalement, ça n'existe pas. Ou alors, c'est le haricot magique. Hein. Mais sinon, ça n'existe pas. Il faut du temps. Vous êtes d'accord? Ouais, ça paraît logique. Hein. Eh bien, finalement, dans ce texte de l'apôtre Paul, il nous rappelle que la maturité spirituelle, ça s'acquiert et ça s'acquiert au prix d'efforts. On ne peut pas faire autrement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si l'on veut marcher avec Dieu, on ne va pas se coucher un soir sans rien connaître et se réveiller le lendemain matin en connaissant tout. Ce n'est pas possible. Pour progresser, ça va prendre du temps. Pour progresser, ça va demander des efforts. Pour progresser, ça va demander sans doute du labeur. Il va falloir s'appliquer. Ça n'arrivera pas soudainement. Ce n'est pas possible. C'est bien dommage, j'en conviens. C'est bien dommage. Ce serait tellement bien si ça pouvait arriver en version, en mode accéléré. Ce ne serait pas bien, ça? Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations accélérées. Ça existe pratiquement pour tout maintenant. Je ne suis pas convaincu qu'après avoir pris une formation d'une semaine ou de 4 jours ou de 4 heures, on soit vraiment capable de faire ce pour quoi on a payé. J'en suis pas très sûr. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut s'y mettre et certainement y revenir. C'est une expérience que j'ai faite il y a fort longtemps, alors que je terminais ma scolarité, je rentrais sur le marché du travail. Et alors, j'étais persuadé, mais je vous promets que c'est vrai, j'étais persuadé que je maîtrisais le métier que j'avais appris. Ben, j'avais fait 2 ans d'école quand même, hein. Donc ce n'était pas une formation champignon, mais ce n'était pas une formation chêne, mais c'était pas mal quand même, 2 ans. Donc j'avais appris, j'avais réussi à mes examens et me voilà embauché. Donc c'était dans une entreprise, c'était l'imprimerie, c'est faire tourner des machines. Et premier jour, j'avais un mois d'essai. Et très rapidement, je ne saurais plus dire si c'est le jour même ou le lendemain, je suis convoqué à la direction pour discuter salaire. Bon, ce qui est normal. Hein. Et donc il y avait le comptable et il y avait le patron. Et donc le comptable m'explique ce que je vais gagner. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais me faire avoir. Mais bon. J'allais être payé en dessous du SMIC, mais comme il y avait des primes liées au métier, etc., elles avaient été englobées, mais ne sachant pas, ben je me suis fait avoir, j'ai dit oui. Néanmoins, je voulais vendre chèrement ma peau, et surtout mes compétences et mes capacités. Donc, quand il m'a dit ce que j'allais gagner, j'avais révisé à la maison, je savais que c'était le SMIC. Et là, je le regarde, je lui dis, excusez-moi, j'ai un diplôme. Et alors là, j'ai pris un vent. Je ne vous dis pas comment. Hein. Le comptable, il n'osait rien dire. Et le patron, qui lui avait de l'âge, il m'a regardé. Mais monsieur, votre diplôme, j'en ai rien à faire, moi. Moi, je veux vous voir derrière la machine. Alors là, vous me dites que, mais ça ne vaut rien. On verra une fois que vous serez derrière la machine. Là, j'ai baissé les yeux, j'ai dit merci, monsieur, et je suis parti. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il avait raison. J'étais persuadé d'être bon. Mais c'était une erreur. C'était juste une erreur. Et la pratique a montré qu'effectivement, j'avais beaucoup de choses à apprendre encore. Parce que pour progresser, il faut du temps. Pour progresser, il faut se rater. Pour progresser, il faut évidemment quelquefois aussi passer à côté et puis être repris. Bref, ça demande du temps. Ça n'arrive jamais subitement, soudainement comme ça. Ce n'est pas possible. Vous imaginez, puisqu'on est servi tout autour de nous, avec toutes les montagnes qu'on a autour de nous, je crois qu'on ne gravit pas un sommet comme ça et on n'arrivera pas au sommet par hasard. Du genre, ah ben ça alors, je suis déjà au sommet, comment ça se fait? Selon le sommet que vous visez, vous allez le sentir passer. Hein, ah oui, parce qu'il y en aura pour des heures. Et combien de fois vous allez vous arrêter? Combien de fois vous allez reprendre votre souffle? Et combien de fois vous allez dire, mais pourquoi il est encore aussi loin? C'est pas possible, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et vous avez l'impression de ne pas avoir avancé, vous aussi. Ça prend du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Mais spirituellement, c'est la même chose. On veut arriver au sommet par hasard. Se réveiller un matin en disant, quel panorama! Je suis au sommet, je vois tout, c'est formidable. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Ça demande du temps. Et finalement, Paul va comparer, si vous voulez, la maturité spirituelle à la pousse d'une plante, hein. Verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé. Il faut que les racines se fassent, il faut que les racines y aillent, c'est l'effet de la plante. Plus les racines sont profondes, et plus elle tiendra dans les temps difficiles, dans les moments d'épreuve, ça c'est une évidence. D'ailleurs, faites une expérience, prenez une semence, quelle qu'elle soit, prenez une semence, vous rentrez à la maison, vous prenez de la terre, dans un pot, vous mettez la terre, vous mettez la semence, vous regardez à quel endroit il y a du soleil, vous mettez au soleil, vous mettez de l'eau et vous attendez. Ça m'étonne que le lendemain matin ce soit sorti, non? Pourtant il y a tout, il y a la terre, il y a la semence, il y a l'eau et il y a le soleil. Mais pourquoi ça sort pas? Parce qu'il manque le temps, c'est comme ça. Alors certaines plantes poussent très 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 vite, hein, et sortent très très rapidement, mais c'est relativement rare. Et en général, elles n'ont pas de racines. Hein. En général, le champignon, c'est facile à retirer. Hein. Et il y a d'autres plantes, pour les retirer, il faut s'accrocher parce qu'il y a des racines. Hein. Finalement, c'est un petit peu la même chose, la vie chrétienne. S'il n'y a pas de racines, on peut dire, j'ai levé très rapidement, j'ai tout compris, j'ai tout su, je suis d'accord et je fonce. Mais s'il n'y a pas de racines, à la première difficulté, vous allez être emporté et il ne restera rien, rien. Tandis que s'il faut prendre des racines, en général, on dit que quand ça pousse en dessous, ça ne pousse pas au-dessus. Une fois que ça a poussé en dessous, ça pousse au-dessus. C'est concomitant comme cela. Eh bien, il me semble que la vie chrétienne, elle peut s'articuler de cette manière-là. On a besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour progresser et vous en aurez du temps. Vous en avez eu déjà jusqu'à maintenant et vous en aurez sans aucun doute encore. Alors, je crois que personne n'est capable de s'enraciner dans la vie chrétienne profondément en une seule nuit. Ça me paraît difficile. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous voulons devenir des croyants forts, solides, spirituels, efficaces, tellement matures. J'aimerais tellement avoir de la maturité. Alors comment il faut faire? Comment il faut faire? Eh bien, on a quelques explications dans cette lettre de l'apôtre Paul et c'est sur les versets que l'on a lu, on va revenir en détail. Il me semble que tout d'abord, on a besoin de main-d'œuvre pour réussir à faire quelque chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Non seulement pour vous, et aussi pour ceux qui sont à la Odyssée, et même pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. L'apôtre Paul est en train de dire, je prie pour des gens qui ne me connaissent pas. Je prie que Dieu les bénisse. Je prie pour des gens qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. Mais quand il est dit, je prie, ça veut dire qu'il fait quelque chose. C'est une action de prier. Ce n'est pas simplement un vœu pieux. C'est une action. Combien de fois il sera resté en jeûne et prière pour ces gens-là? combien de fois il aura combattu, combien de fois il aura pris des nouvelles, combien de fois il se sera déplacé sans que les uns et les autres ne le sachent peut-être, combien de fois il aura été sur le terrain pour comprendre, pour voir quelles étaient leurs difficultés, etc., etc. En fait, quand on veut monter un mur, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Non ? Parce que si on est tous d'accord pour dire il faut monter le mur et qu'on regarde tous, le mur, il ne va pas se monter tout seul. Hein. Ben non, il ne va pas se monter tout seul. Alors on peut regarder l'autre en disant tu restes là et tu fais rien, toi, les mains dans les poches. Mais il pourrait nous dire et toi, tu fais pareil. À un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle pour monter le mur, non ? Ben, l'apôtre Paul s'y est collé. Il a monté le mur, mais pas son mur. Il a voulu monter le mur des autres. Il a voulu prier pour que ses bien-aimés soient enracinés. Et il fait le travail, alors que finalement, ce n'est pas à lui de le faire. Dites, on n'est pas responsable de sa propre vie ? On n'est pas responsable nous-mêmes de notre propre vie ? On ne peut pas toujours repousser ou rejeter sur les autres nos difficultés, non ? Alors, faire le travail, c'est quelquefois pas toujours visible. Ça peut être un travail de l'ombre, mais comprenez que Paul ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, et eux, visiblement, ils n'y arrivaient pas. Vous l'avez fait avec vos enfants. Quand ils étaient tout petits, vous leur avez donné à manger. Vous n'avez pas attendu quand l'enfant pouvait tenir assis, je ne sais pas, il a 9 mois, vous le mettez dans la chaise haute, vous lui mettez le petit pot, la cuillère, en disant « bon appétit !» C'est pas possible, il faut l'aider. Mais à un moment donné, vous le faites parce qu'il peut pas le faire. Et à un moment donné, il le fera tout seul parce qu'il peut le faire. Et ça va pas vous plaire de continuer à le faire à sa place, évidemment. Alors, comprenez bien, frères et sœurs, qu'il viendra un temps où ceux pour lesquels vous priez, qui n'ont pas de racines, qui ont besoin de faire des progrès, et tout ce que vous faites pour eux, faites-le de bon cœur, entre parenthèses, et tout ce que l'on fait pour les uns les autres, on le fait avec joie, on le fait avec bonheur et on s'investit. Mais comprenons bien qu'à un moment donné, il viendra le temps où ils pourront le faire eux-mêmes. Ça veut dire en d'autres termes, et c'est ce que j'ai mis sur l'écran, c'est qu'à un moment donné, on est prêt à faire des efforts pour soi, mais à un moment donné, on est fatigué de faire des efforts pour les autres. On se dit, mince, il pourrait en faire quand même quelques-uns d'efforts, et pourquoi c'est toujours moi qui dois les faire, et pourquoi il ne les fait pas, etc. Qu'importe. Je crois que, et là, on est tous logés à la même enseigne, on a fait beaucoup, on a beaucoup donné, on a fait des efforts, mais je crois qu'il nous faut réapprendre encore le goût de l'effort. Soit apprendre le goût de l'effort, parce que certains se laissent vivre tranquillement et n'imaginent pas qu'il soit possible de faire davantage, et ils se disent, c'est pas grave, de toute façon, c'est les autres qui font pour moi, mais ils ne progresseront pas, et malheureusement, à la moindre épreuve, ils risquent d'être emportés. Alors, nous savons qui est fragile, qui est faible, nous le savons, même par rapport à nous-mêmes. Nous savons où nous en sommes, donc faire des efforts, c'est nécessaire, et une fois qu'on a appris à faire des efforts, eh bien, il ne faut jamais s'arrêter de faire des efforts. Je suis tombé par hasard hier, sans doute l'avez-vous vu, il y avait un fabuleux reportage sur la Corse. Et quand j'ai vu ça, je m'y suis arrêté quelques instants. Et à un moment donné, il montre un patron pêcheur, quelqu'un qui sort avec son bateau, et il ne sort pas tout seul maintenant, il sort avec son fils. Le monsieur a 87 ans. 87 ans, il a bon pied, bon oeil quand même. Hein. Et le reporter lui demande, ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? J'ai commencé à 15 ans. Ça fait 62 ans et il n'a pas envie d'arrêter. Il se lève à 5 heures du matin, quoi. Il n'a pas envie d'arrêter. C'est extraordinaire quand même. Ne me dites pas que ça ne lui coûte pas d'effort. Ce n'est pas possible. Surtout pas à cet âge-là. Certainement. Alors, il n'est pas tout seul, évidemment. Mais il a envie. Il aime l'effort, finalement. Il aime faire des efforts. Ce n'est pas évident de faire des efforts, hein. Moins on en fait, et quelquefois certains vous diraient, mieux je me porte. Mais je ne pense pas que spirituellement ça fonctionne comme ça. Dans la vie spirituelle, c'est ainsi, il faut toujours faire des efforts. Quand vous commencez à vivre sans faire d'efforts, vous régressez sans doute. Il y a un problème, parce que la vie chrétienne est ainsi faite, et parce que c'est comme cela que l'on peut grandir et évoluer, bien évidemment. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Donc, dans ce passage, je soutiens un grand combat pour chacun de vous. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Afin que ces gens-là puissent avoir le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je prie, bien-aimé, que on puisse consommer, je mets ça entre guillemets, consommer cette connaissance de la Bible que nous avons. Que cette connaissance ne reste pas dans notre tête. On n'est pas des théologiens. On ne veut pas faire uniquement de la théologie. On veut avoir une vie chrétienne pratique, quelque chose de praticable, quelque chose que l'on peut mettre en œuvre à chaque moment. Et je pense que si la tête a besoin d'être bien remplie pour connaître ces mystères-là, je crois que c'est notre vie tout entière qui doit être remplie. Un chrétien, ça se voit. Non ? Chrétien, ça se voit par l'attitude, par la manière d'être, par la manière de se comporter, ça se voit. Frères et sœurs, ça remonte à quand, là encore, la dernière fois, que vous avez eu envie d'apprendre ce qu'il y a écrit là-dedans ? Ça remonte à quand, la dernière fois, où vous avez tourné les pages en disant « Mais ça, ça veut dire quoi ? Ah, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir. » Ça remonte à quand ? L'envie d'apprendre. Plaise à Dieu, là aussi, que toute notre vie, nous soyons curieux, curieux des choses de Dieu, avides de connaissances, et puis de choses très pratiques, désireux d'appliquer dans notre vie ce que l'on apprend, ce que l'on nous dit, l'enseignement que l'on reçoit. Frères et sœurs, on en a besoin, on en a besoin. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va devenir simplement religieux. C'est-à-dire qu'on a l'apparence de la piété, mais on n'a pas ce qui en fait la vie, ce qui en fait la force, comme dit l'apôtre Paul. On n'aura pas ça, on n'aura que l'apparence. Ah, on est chrétien, mais vous savez comme moi qu'il y a énormément en France de gens qui se disent chrétiens non pratiquants. Non ? Il y en a un paquet. Hein. Je suis croyant, chrétien, non pratiquant. C'est une coque vide. Il ne faut pas qu'on devienne comme ça. Je crois qu'on a besoin d'avoir toujours cette envie d'apprendre, cette envie de savoir plus, de savoir davantage. Frères et sœurs, ne soyez jamais blasés de votre vie chrétienne en disant « Ouais, c'est bon, je sais tout. Mais oui, je sais, je sais. » Non, ayant toujours envie de dire « Mais je sais des choses, mais je sais que je ne sais pas assez, je sais que j'en sais pas assez, je voudrais connaître davantage. » Que le Seigneur nous aide à avoir cette envie d'apprendre. C'est la prière de l'apôtre Paul. Qu'ils aient le cœur rempli de consolation, enrichi d'une pleine intelligence. On dit que quelquefois, pour aider les plantes à pousser, il faut mettre un peu d'engrais pour les aider, un fortifiant. Eh bien, nous, notre fortifiant, c'est la curiosité. Quand je m'en vais chercher dans l'Écriture quelque chose de neuf que je n'ai jamais découvert, que je n'ai jamais trouvé, ça me fait grandir. Ça me fait grandir dans la maturité spirituelle. Et puis en tout, bien évidemment, il y a toujours une question d'équilibre. Regardez au verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Être attentif à tout, c'est-à-dire être curieux de tout, ça ne signifie pas qu'on va se laisser séduire ou dériver ou emporter. Et en général, ceux qui se font séduire par quelque fausse doctrine que ce soit, ce sont en général des gens qui n'ont pas forcément de profondes racines. Dans la Bible, il est parlé, dans le livre des Actes au chapitre 17, il est parlé de certaines personnes de la ville de Béré qui avaient besoin d'examiner dans l'Écriture si ce qu'on leur disait était vrai. Donc ils avaient cette curiosité, je veux savoir, je veux connaître. Et on peut tous, un jour ou l'autre dans notre vie, on peut tous être séduits par un discours. Tous. Parce qu'il arrivera à un moment critique. Il arrivera un moment très spécifique, très particulier, un moment où on n'est pas bien, un moment où on a envie d'autre chose, un moment où on est déstabilisé dans notre vie personnelle, dans notre vie physiquement, on peut être malade. Bref, et c'est à ce moment-là, très souvent, que le diable vient et envoie petite semence, un petit vent de quelque chose, une idée nouvelle, nouvelle doctrine ou autre. Et c'est là qu'on peut se laisser piéger. Donc, on peut tous être surpris. Il y a toujours une question d'équilibre. Si ça peut vous donner une idée, eh bien, retenez au moins ceci, c'est que tout enseignement que l'on entend doit éclairer la personne de Jésus, l'œuvre de la croix. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas autre chose, ne cherchez pas différemment. C'est bien là que ça se situe. Je crois que le message, d'ailleurs, ne doit pas forcément aller dans le même sens que ce que je recherche. Souvent, j'ai remarqué que certaines personnes vont réagir plus facilement à certains messages plutôt qu'à d'autres. Et en général, vous remarquerez que quand ils réagissent à tel genre de message, c'est que ça correspond à ce qu'ils voulaient entendre. Mais ce n'est pas parce que je veux entendre ça que ça, c'est bien. C'est ce que je veux entendre. Reste à savoir si je fais bien. Quelquefois, d'ailleurs, certains messages peuvent nous contrarier parce que ça nous prend un rebrousse-poil. Ça ne nous prend pas dans le bon sens. Et on dit « Ah non, j'ai pas envie d'entendre ça, ça ne me plaît pas. » Et pourtant, il me semble que c'est quelque chose qui doit être intéressant et vraiment à rechercher. Dans la deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit ceci au chapitre 4 et au verset 3. « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. » Toujours une question d'équilibre, frères et sœurs, ça marche toujours comme ça. Et puis, on a toujours besoin d'avoir un regard extérieur, parce qu'on n'est pas toujours très très objectif pour soi-même. C'est le verset 5 qui le dit. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Vous vous souviendrez que l'apôtre Paul a souvent rédigé des lettres pour répondre à des questions. Ce n'est pas simplement de la doctrine, c'est juste pour certaines d'entre elles, on lui a posé des questions, il répond aux questions et il renvoie le courrier. C'est ça les lettres qu'on a dans la parole de Dieu. Mais quelquefois, il est entré dans des thèmes théologiques, dans des discussions, dans de l'enseignement qui allait à l'opposé de ce que les autres avaient envie d'entendre. Je me souviens, concernant les dons spirituels, qu'il dira aux chrétiens de Corinthe qui disposaient de tous les dons. Nous, on est bien loin de cela, malheureusement. Mais eux disposaient de tous les dons. Et quand l'apôtre Paul leur écrit, parce qu'il y a des reproches à faire, il leur dira « Je vous écris et je suis en colère contre vous parce que vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Mais ça, je suis persuadé qu'ils n'avaient pas envie de l'entendre. Ben oui, ils n'avaient pas envie de l'entendre. C'est un reproche. Il me semble que quelquefois, le regard extérieur, c'est un regard qui est neutre, qui doit être et qui se veut être positif, bien évidemment. C'est un regard, parce qu'il est neutre, qui peut être pertinent. Est-ce qu'on est encore capable d'entendre les remarques ? Est-ce qu'on est encore capable d'accepter les reproches ? Arrive-t-on encore à entendre ? Quand quelqu'un nous fait un reproche, ceci étant, tous les reproches que vous avez reçus, tous les reproches que j'ai reçus, ils nous ont fait réfléchir, n'est-ce pas ? Ils nous font réfléchir, se disant, alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Et si on est honnête avec soi-même, souvent on a dit, c'est vrai, c'est vrai. Il ou elle a bien fait de me le dire. Des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on ne voit plus, des choses qui nous échappent. Et quelqu'un va nous dire, c'est pas bien ce que tu fais là. J'aime pas comment tu parles, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu dis. Et ça fait du bien de l'entendre, parce qu'on peut se remettre en question. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. Si à chaque fois les gens vous disent, oh, tu es formidable, c'est extraordinaire, ah non, tu es parfait, hein. On ne progresse pas. Hein. C'est pas vrai. Au contraire, on s'enfonce. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. parce qu'on est entouré d'une cour qui sait nous faire la cour, et c'est pas bon ça. Je crois qu'on a besoin d'avoir un regard extérieur. D'ailleurs, si vous acceptez les reproches, ça fait jamais plaisir. Sans doute pourrez-vous aider d'autres personnes par la suite. Et chacun son tour, évidemment. Aujourd'hui, vous apprenez, demain, vous guiderez, vous encouragerez. Alors, c'est pas une histoire de vengeance, hein. Moi, on m'en a dit, tu vas voir toi ce que tu vas prendre. Parce qu'avant, j'étais jeune, on me disait plein de choses. Maintenant, je suis vieux, c'est à moi de le dire. Non, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Parce qu'on peut être très jeune, apprendre et guider très rapidement. Et on peut être très vieux, toujours avoir besoin d'apprendre. Et il vaudrait mieux qu'on se taise plutôt que de vouloir incendier l'un ou l'autre, etc. Donc, à un moment donné, c'est la maturité spirituelle qui nous fait ouvrir nos oreilles et ouvrir notre bouche, bien évidemment, à bon escient. Après, tout cela, c'est pour construire, évidemment. C'est pour construire. Regardez ce qu'il est dit au verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé et affermi par la foi d'après les instructions que vous avez reçues, entendues. » Construire. Construire sur un fondement. On a tous une histoire, on a tous un passé, et je crois que nous devons, à part quelques rares exceptions, je crois que nous construisons sur notre passé et notre histoire. C'est comme ça. On construit dessus, on construit avec. C'est plus ou moins bon. Il y a des choses dont le Seigneur nous débarrassera parce que ce sont des entraves. Et puis il y en a d'autres, ce ne sont pas des entraves. Ce sont des cicatrices, ce sont des marques, ce sont des faits. Ce sont des choses qui sont réelles. Et le Seigneur peut utiliser cela aussi. Souvenez-vous que Jésus est entré dans les rues de Jérusalem, assis sur le petit d'un âne, un ânon. Et quand on est venu récupérer l'animal qui était attaché, qui appartenait à quelqu'un, le quelqu'un en question dit « Hé, pourquoi vous partez avec mon ânon ?» Et la réponse a été celle-ci, « Le Seigneur en a besoin. » Le Seigneur en a besoin. Je crois que le Seigneur a besoin, je mets ça évidemment entre guillemets, le Seigneur a besoin de vous, de moi, pour que l'évangile se répande, puisqu'il nous a choisis pour cela. Il nous a appelés, il nous a sauvés pour le servir. Donc on le sert, mais je le sers avec mon histoire. Et de mon histoire, je peux m'en servir. Plutôt qu'elle ne m'accable encore, je peux m'en servir, bien évidemment. Alors, souvenez-vous ce que dit le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et quand votre histoire vous embarrasse, et quand votre passé vous pèse, eh bien, citez ce verset, « Je suis quand même une créature si merveilleuse. » Et quelquefois, Dieu a permis. Certaines fois, on se dit qu'il eût mieux valu que ça ne se passe pas comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est comme ça. Je réfléchissais il y a quelque temps encore, et je crois vous l'avoir déjà dit, et je me disais que si je suis là, je suis un survivant. Un survivant, mais on est tous un peu comme ça, hein. Survivant parce que du côté de mon papa, si vous remontez à mon arrière-arrière-grand-père, il s'est fait envahir par une horde de sauvages qui l'ont fichu à la porte de sa maison, qui ressemblait quand même un peu à un château. Ils l'ont mis dehors en lui disant « Tu pars avec ce que tu veux sur ton dos, sinon on te tue. » Il a emporté sa femme sur son dos, qui était enceinte de mon arrière-arrière-grand-père. J'aurais pu ne jamais être là. Et du côté de ma maman, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale et c'est pratiquement une partie de la famille qui est morte dans les camps. Je suis un survivant. C'est mon histoire. Mais quelque part, je suis vivant quand même. Et vous, c'est pareil. On a tous une histoire. On peut regretter, on peut dire que ce n'est pas normal, on n'a pas été entre de bonnes mains, ça a mal tourné. Mais je vous encouragerai à construire avec votre vécu, votre histoire. Il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes, c'est évident. Mais ce qui n'est pas bon, Dieu s'en chargera et il vous en débarrassera. Quelquefois, Dieu a laissé certaines choses et on se dit, je ne comprends pas pourquoi il m'a laissé ça. Moi, j'aurais été à sa place, je me l'aurais enlevé quand même, hein. Mais s'il l'a laissé, on ne peut pas douter de ses choix, on ne peut pas douter de sa volonté, de qu'est-ce qu'il va en faire. Alors on peut tous construire, je crois qu'on peut construire. Certains ont été détruits, vivent encore dans une forme de destruction assez récurrente, Mais je crois qu'on peut construire quelque part la vie chrétienne. À un moment donné, ce sont des applications, on applique, ce sont des démonstrations. Et si on est capable d'appliquer, de démontrer, eh bien c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme cela qu'on prend beaucoup plus d'assurance. Quand on apprend un métier, vous avez remarqué là aussi, au début, quand le geste devient répétitif, sur un métier, et plus le temps passe, et plus le geste est sûr. Est sûr. Si ça vous est déjà arrivé de devoir, je ne sais pas, vous faire soigner les dents, vous allez voir un dentiste, on vous dit, écoute, il est très bon, il a 25 ans d'expérience. Par contre, si vous arrivez dans le cabinet et que vous voyez quelqu'un qui vous dit, j'ai eu mon diplôme la semaine dernière, allez, venez, on va voir ça. Bizarrement, vous êtes un peu inquiet là. Vous dites, vous êtes entraîné quand même un petit peu. Finalement, avec le temps, le geste devient sûr. Eh bien, moi, je crois qu'avec la maturité chrétienne, nos gestes deviennent sûrs, nos interventions deviennent sûres, nos remarques deviennent sûres, plus habiles parce qu'on a l'habitude. Et puis parce que le Seigneur nous a fait grandir aussi. On a construit, on s'est construit et on a construit également. Enfin, je crois que c'est bien d'apprécier quand même que Dieu nous a invités à une croissance comme celle du chêne et pas comme celle du champignon. Donc ça demandera des efforts, ça demandera du labeur et on peut rendre grâce à Dieu pour cela. C'est le verset 7 qui dit ceci, « Abondez en action de grâce, en toute chose, abondez en action de grâce. » Rendez grâce à Dieu pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Soyez reconnaissant pour le chemin que Dieu a choisi pour vous. Ce n'est pas celui-là que vous auriez pris, vous. Mais c'est le chemin qu'il a choisi. Rendez grâce à Dieu pour ce chemin-là. Et puis, vous pouvez vous remémorer, alors sans nostalgie, hein, mais avec bonheur, ce qu'a été votre parcours, parce qu'on croit que le meilleur est encore devant nous. J'ai mis à l'écran, le meilleur est encore et toujours devant nous. Et avoir toujours envie de plus et plus encore, et se dire tous les matins, comme si on était à l'école, peut mieux faire. Hein. Ouais. Ça, c'était souvent les remarques des profs. Hein. Peut mieux faire. Satisfaisant, mais peut mieux faire. A de grandes qualités, doit faire plus. C'est normal, c'était pour vous motiver. Hein. Néanmoins, je peux me le dire tous les matins, ou le Saint-Esprit peut me le dire tous les matins, aujourd'hui, tu peux mieux faire qu'hier. Aujourd'hui, ça peut être mieux qu'hier. C'est l'envie, c'est le désir. C'est l'envie d'apprendre, c'est le désir de progresser, c'est l'envie d'avoir des racines et c'est être capable de se confronter à un regard extérieur en disant « si quelque chose ne va pas, dites-le-moi, si quelque chose n'est pas cohérent, dites-le-moi ». En fait, la conclusion, elle n'apparaîtra pas à l'écran au-delà, mais je pourrais dire, vous avez le choix, grandir ou vieillir. Vous avez le choix. Grandir ou vieillir, avancer ou reculer, ça se résume à ça, progresser ou régresser. La croissance, c'est ça. Alors, ça demande des efforts. Et merci Seigneur pour tous les efforts que l'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et pardon pour ceux, Seigneur, que l'on n'a pas réussi à mettre en place, à mettre en œuvre. Mais gloire à Dieu, je ne veux jamais être blasé de ma vie chrétienne. Je ne veux jamais être blasé, satisfait de ma marche avec Dieu. Mais je veux toujours demander davantage, avec bonheur, hein, avec bonheur et avec joie, hein, sans se lamenter tous les jours. Il paraît que dans un certain ordre religieux, on n'avait pas le droit de parler. C'était vœu de silence. Par contre, quand ceux qui vivaient là se croisaient, ils avaient le droit de se dire une formule. Une seule chose. Hein. Pas « Hello, comment vas-tu ? Check ». Non, c'est pas ça. Hein. Mais ils avaient le droit de se dire une phrase en se regardant bien droit dans les yeux, « Il faut mourir. » Et ils se croisaient comme ça, « Il faut mourir. » Si on n'avait qu'une phrase à dire, on voudrait dire « Il faut vivre. » Non ? L'air de dire « Allez, introspection, allez. » Ah, moi, je ne veux pas vivre comme ça. Hein. Je ne veux pas tous les matins me dire « Aujourd'hui, il faut mourir. » On doit mourir à soi-même. Mais on doit vivre pour glorifier le Seigneur. Et pour ça, on a les moyens de grandir. Vous avez les moyens de progresser. C'est facile. Et souvenez-vous que vous n'arriverez pas au sommet par hasard. Et souvenez-vous que ça demandera des efforts, mais Dieu a disposé de tout pour que vous puissiez y arriver et que nous puissions y arriver ensemble. Amen. On va prier et on va demander à Dieu sa bénédiction. On se lève ensemble pour invoquer Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te remercier, je veux te rendre grâce pour ces moments que l'on a partagés ensemble. Je veux te remercier parce que je crois que ta parole est la vérité. Et je crois qu'elle change tout dans un cœur et dans une vie. Elle change tout pour nous, elle peut tout changer cet après-midi encore. Tu vas toucher des cœurs, tu vas bénir parce que nous voulons voir ta gloire et nous savons que tu nous étonneras encore par des signes, des prodiges et des miracles. Quant à nous, Seigneur, bénis, s'il te plaît, nos cœurs et nos vies. Oui, nous voulons nous enraciner plus profondément. Oui, nous voulons progresser. Alors, permets-nous d'appliquer ce que tu nous demandes de faire et de le faire avec joie et de le faire avec zèle. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Raccompagne-nous dans ta paix. Bénis les jours qui sont là devant nous, qui témoigneront de cet engagement que nous avons pris et qui révéleront encore la personne de Jésus. Que ton nom soit loué pour tes bontés. Si quelqu'un n'était encore trop chargé quant à son histoire, débarrasse-le de ce qui pèse sur sa vie et sur son cœur et donne-lui ta grâce et ta paix. Dans le nom de Jésus, donne-lui ta grâce et ta paix. Amen.